franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, la planète qui n'en finit pas de connaître des records de chaleur.
En venant à Pékin, François Hollande s'est fixé un objectif. Il veut que la Chine s'engage de façon contraignante à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
D'ores et déjà, la Chine et la France prennent des décisions dans le cadre d'une stratégie commune pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle.
Premier pollueur de la planète, la Chine accepte aussi un contrôle tous les 5 ans de ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Et c'était François Hollande en novembre dernier lors d'un déplacement en Chine, juste avant la COP21. La Chine qui est souvent montrée du doigt d'ailleurs comme pollueur important, acteur majeur du dérèglement climatique. Une assertion juste mais qu'il faut nuancer, Catherine de Copé.
Oui, c'est l'objet d'une étude publiée il y a quelques jours dans Nature qui nous dit notamment que la Chine a une part moins importante qu'on imaginait dans le réchauffement climatique.
Bonjour Thomas Gasser.
Bonjour.
Vous êtes l'un des co-auteurs de cette étude scientifique du climat au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et puis avec nous dans ce studio, Hervé Kempf, le rédacteur en chef de reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avant d'entrer dans le vif de l'étude, Hervé, il faut rappeler que les annonces récentes sur le réchauffement climatique ne s'arrangent vraiment pas.
Et non, très récemment, la Météo France nous a dit que l'hiver 2015-2016 avait été le plus chaud enregistré en France depuis le début du 20e siècle. Peu après, la NOAA et la NASA, deux agences états-uniennes, ont dit que le mois de février avait été le plus chaud dans le monde depuis 1880. Et pour couronner cette série de tristes nouvelles, l'Organisation météorologique mondiale vient d'annoncer que 2015, je cite, a marqué l'histoire avec des records de température fracassant, c'est le mot qu'emploie l'OMM. Et c'est dans ce contexte qu'intervient l'étude franco-chinoise, de l'équipe franco-chinoise qui vient de paraître dans Nature, qui est vraiment très importante. On va voir pourquoi. Avant, on disait que le méchant du climat, c'était les États-Unis. Et puis, après 2008-2009 à peu près, on s'est rendu compte que la Chine devenait le premier émetteur de CO2, le gaz carbonique. La Chine devenait le grand méchant climatique. Eh bien, non, nous dit l'étude qui paraît et dont on va parler avec Thomas Gasser. Ce qu'elle dit, ces études, c'est que la Chine est un responsable moins important qu'on le pensait du réchauffement climatique. Pour le comprendre, il faut bien avoir en tête que le changement climatique ne découle pas seulement de l'accumulation de gaz carbonique, mais qu'il faut analyser aussi d'autres gaz à effet de serre. Il faut analyser les aérosols, il faut même analyser l'albédo, c'est-à-dire la réflexion de la lumière par les surfaces terrestres. C'est ce que va nous expliquer
Monsieur, notre invité, voilà. Catherine de Copé.
Oui, alors Thomas Gasser, justement, Hervé Kempf vient de le préciser, votre étude, et c'est en partie son originalité, est basée finalement sur toutes les sources qui peuvent changer le climat, hein, c'est bien ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu par le passé un certain nombre d'études qui ont cherché à classifier, à ordonner les pays émetteurs, les pays pollueurs, mais notre étude a l'intérêt de prendre en compte l'ensemble des perturbations d'origine humaine du système climatique.
Alors aujourd'hui, le résultat de votre étude vient nuancer ce qu'on dit toujours de la Chine, à savoir qu'elle est responsable à elle seule d'un quart des émissions de CO2 d'aujourd'hui. Alors quel est le résultat concrètement?
Alors le résultat, donc comme vous l'avez dit, c'est cette nuance entre ce chiffre qu'on peut trouver à peu près n'importe où dans tous les médias, qui est que la Chine à l'heure actuelle émet à peu près 25% du CO2 d'origine fossile. Et nous, on calcule que sa contribution à ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire c'est un indicateur pertinent du changement climatique, sa contribution est de 10%, avec une incertitude qui est quand même c'est 10 plus ou moins 4% du total.
Et vous évoquez 12% pour sa contribution au réchauffement induit par les gaz à effet de serre, hein, c'est bien ça?
Voilà, donc le changement climatique n'est pas causé uniquement par les gaz à effet de serre. En fait, il y a des composés qui réchauffent, les gaz à effet de serre, mais il y a aussi des composés qui refroidissent. Ces composés sont les aérosols. Dans notre étude, on a cherché à attribuer indépendamment chacun des composés pour ensuite évaluer l'effet total.
On voit, Thomas Gasser, à quel point toute cette question est quand même extrêmement ultra complexe. Elle est multifactorielle, hein, puisqu'on le voit, il faut prendre énormément de paramètres en compte.
Oui, tout à fait. Alors là, on a parlé des différents composés qui rentrent en jeu. Alors, en plus des composés, il y a, comme il a été mentionné, la question de la capacité des surfaces à réfléchir le rayonnement solaire, qui est encore un élément supplémentaire. Et en plus, il y a la question de l'historique des perturbations, c'est-à-dire que notre étude s'intéresse aussi aux émissions de gaz à effet de serre et des aérosols qui ont eu lieu depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire en gros depuis le début du changement climatique.
Donc vous remontez jusqu'à quelle période exactement ? 18e siècle, c'est ça ?
Alors on fixe de manière assez arbitraire, on fixe le début de la révolution industrielle à 1750.
Hervé Kempf.
Il y a un aspect très étonnant dans votre étude, c'est que vous dites que les efforts que veut mener la Chine, et elle s'y engage réellement, notamment dans le dernier plan quinquennal qui vient d'être publié, une réduction très forte de la pollution atmosphérique. Et paradoxalement, vous dites que ça pourrait avoir un effet négatif sur le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Oui, mais on a du mal à comprendre, oui.
En fait, donc je l'ai dit, schématiquement, il y a deux grands perturbateurs du système climatique. Il y a ces gaz à effet de serre dont on entend toujours parler, et il y a les aérosols. Donc les aérosols, ce sont des particules en suspension dans l'atmosphère. Mais ces particules ont une très faible durée de vie, c'est-à-dire qu'elles retombent assez rapidement. Elles retombent au bout de quelques jours ou quelques mois en fonction du type d'aérosol. Et donc ces aérosols participent, ce sont eux qui participent à la pollution de l'air. Ce ne sont pas les gaz à effet de serre.
Et donc,
mettre en place une politique de réduction, d'amélioration de la qualité de l'air, ça consiste à mettre en place une réduction de l'émission de ces aérosols ou de leurs précurseurs. Et donc, comme ces aérosols ont en plus un effet refroidissant, masquant, on peut avoir cet effet qui est contre-intuitif que améliorer la qualité de l'air peut augmenter le changement climatique.
En fait, si on comprend bien, il faudrait aussi que la Chine fasse un effort sur ses émissions de gaz à effet de serre pour ne pas contribuer encore plus au réchauffement climatique, hein, c'est bien ça.
Voilà, en quelque sorte, il faudrait compenser le fait qu'en améliorant la qualité de l'air, on diminue l'effet masquant de ces composés refroidissants. Il faudrait compenser par une réduction d'au moins autant des gaz à effet de serre, ou, alors c'est là que ça devient subtil, il y a un aérosol qui est, lui, réchauffant.
Il va falloir faire le tri dans les aérosols.
Voilà.
Thomas Gasser, votre étude donc change un petit peu l'image de la Chine, hein, on le voit, et puis surtout indique qu'il faut vraiment interpréter les choses et les chiffres avec beaucoup de précautions. Ça devrait pouvoir inspirer les politiques du monde entier, selon vous ?
Ben, du moins, je l'espère. Ce que ça montre, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est la complexité du système et qu'on ne peut pas simplement pointer du doigt un pays et dire « ce sont les plus gros pollueurs et ce sont les méchants, entre guillemets, et c'est à eux de faire les efforts ». L'image est beaucoup plus complexe, en fait. Hein. Alors, notre étude ne change pas complètement l'image, c'est-à-dire que les grands pays pollueurs, si on réappliquait notre méthodologie à d'autres pays et qu'on en arrivait à avoir une estimation à l'échelle du globe du rôle de chaque pays, on verrait quand même le rôle des grands émetteurs historiques comme les États-Unis ou l'Europe, et la Chine resterait de toute façon un grand pollueur.
Oui, mais précisément, est-ce que vous allez mener cette étude sur notamment les États-Unis ?
Alors, donc, on ne l'a pas mené. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui est envisagé immédiatement. On a démontré la faisabilité d'une certaine manière. Maintenant, pour multiplier ce nombre d'études, pour prendre en compte les incertitudes qu'il y a autour, ça demande en fait des investissements en temps
et de l'argent. Et de l'argent, voilà. Vous n'avez pas, pour être tout à fait clair. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, pour ce décryptage, suite à cette étude parue dans Nature, Thomas Gasser. Merci beaucoup, Hervé. Vous faites l'écho, justement, de ce travail.
Tout à fait. Dès demain, pour cette étude vraiment très importante.
Sur reporter.net. Merci, Catherine Tocopé.
Merci, à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bactérie qui se plaît mieux hors de notre atmosphère que sur Terre. Le projet Mercury a mis en culture 48 souches de bactéries à plus de 400 km au-dessus de nos têtes dans la Station Spatiale Internationale. Et résultat, Bacillus safensis est la seule bactérie à s'être développée, et ce, dans des proportions surprenantes. Elle connaît une croissance plus forte de 60% lorsqu'elle n'est pas soumise à la gravité terrestre. Pour mieux comprendre son fonctionnement au long terme, la prochaine étape consistera à effectuer des tests plus poussés à bord de l'ISS. La visite virtuelle de la tombe de Richard III, une modélisation accessible en ligne qui permet aux chercheurs comme aux étudiants d'apprécier la position du squelette et son détail. Pour rappel, la tombe de Richard III avait été retrouvée en 2012 sous un parking des Midlands de l'Est de l'Angleterre. La mine d'informations recueillie par les archéologues nous en apprend un peu plus sur les derniers instants du roi. Le lien pour cette visite virtuelle est en ligne sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Et puis c'est une première, le télescope spatial Kepler de la NASA a capté la présence d'une supernova à 1,2 milliard d'années-lumière de la Terre. Cette étoile qui s'appelle KNS-2011D, en fin de vie, est 500 fois plus grosse et 20 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. L'observation de l'onde de choc provoquée par cette étoile en fin de vie permet de mieux comprendre les origines de l'univers. C'est l'une des missions de Kepler qui photographie 500 galaxies chaque demi-heure depuis 3 ans. Les artistes de la NASA ont donc décidé de reconstituer l'événement sur une vidéo qui est en ligne. Même chose, Twitter et Facebook, de la tête au carré.